On y passe, c'est vrai, près de la moitié de notre vie. Notre lit et la chambre sont nos deux objets d'exploration cet après-midi dans la Tête au Carré, objet de science pour les sociologues et les historiens qui en étudient les symboles et les enjeux. Le lit conjugal et la chambre, théâtre de nos existences, lieu d'amour, d'aspiration au bien-être personnel, mais aussi lieu de guérilla et de champ de bataille. On en parle dans un instant avec l'historienne Michèle Perrault et le sociologue Jean-Claude Kaufmann. Toutes vos questions et vos témoignages, bien sûr, dès maintenant sur franceinter.fr. Et sur le mot-clé, l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, un mathématicien de génie, Alan Turing, au cœur d'un film hollywoodien Imitation Game. Faut-il aller voir ce film qui est lancé sur la piste des Oscars? Laurence Perron et le philosophe Jean Lassaigue ont vu le film. Ils nous donneront leur avis partagé. Violaine Ballet réalise cette Tête au Carré qui a été préparée par Lucie Sarfati avec Axel Villard et Fanny Cohen-Moreau.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Michèle Perrault et Jean-Claude Kaufmann, bonjour à tous les deux. Jean-Claude Kaufmann, dans un lit conjugal, il y a celui qui a chaud, celle qui a froid, celui qui ronfle, celle qui bouge et celui qui dort profondément pendant que l'autre a le sommeil extrêmement léger. Finalement, partager un lit, ça n'est vraiment pas de tout repos à vous lire.
Non, c'est pas simple. Alors, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, surtout dans cet endroit le plus intime. Dans le couple, on passe son temps à construire un monde commun. On construit un monde commun. Culturellement, on s'unifie dans tous les domaines et on croit ne faire qu'un, surtout au plus intime. Et là, il y a comme une surprise, une certaine mauvaise surprise que de découvrir que l'autre, il reste très différent dans ses mouvements, dans ses manifestations, parfois un petit peu bruyantes. Et là, se pose la question terrible. Est-ce que mon bien-être personnel doit passer avant l'envie, le désir de ne faire qu'un avec l'autre.
Ouais, c'est toute cette contradiction qui ressort justement de cette enquête que vous avez menée et qui est publiée dans un livre, Un lit pour deux. Vous avez donc visité le lit de 200 personnes. Vous nous direz comment vous avez procédé justement. Michèle Perrault, à quel moment de l'histoire les couples se sont-ils mis justement à partager un lit commun ?
Oh, depuis longtemps, on pourrait dire au Moyen-Âge, quand l'Église sanctifie véritablement le mariage, le lit devient vraiment le symbole, ça se répand à partir de ce moment-là, et ça atteint son apogée au XIXe siècle. Alors là, véritablement, la chambre et le lit conjugal, c'est un symbole très fort.
Oui. Et aujourd'hui, on cherche de plus en plus à faire chambre à part, hein. C'est ce qu'on verra.
Absolument, et c'est ce que montre aussi, très bien le livre de Jean-Claude Kaufmann. Et on voit le problème individu et couple. On veut un couple, mais en même temps, on cherche son individualité.
Oui, dans un lit qui s'agrandit, aussi on le verra avec vous. Partager un lit, justement, ou faire chambre à part, on en discutera dans quelques instants avec les messages et les témoignages des auditeurs. Allez, à la une de la science aujourd'hui, la vie d'un génie des mathématiques sur grand écran.
Messieurs, je vous présente Alan Turing.
Nous allons devoir travailler ensemble. J'ai peur que ces hommes ne fassent que me ralentir.
Vous deviez être populaire à l'école.
Je suis en train de concevoir une machine qui nous permettra de déchiffrer tous les messages codés, tous les jours, en un instant.
Pour pouvoir jouer le rôle du petit génie prétentieux, il faudrait déjà être un génie.
Aujourd'hui sort donc dans les salles Imitation Game, un film de Morten Tildum qui raconte l'histoire du mathématicien anglais Alan Turing, père de l'informatique, précurseur du concept d'intelligence artificielle. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service culture de France Inter. Jean Lassaigue, bonjour à vous aussi.
Bonjour.
Philosophe des sciences et auteur d'un livre entre autres, mais vous en avez publié plusieurs autour d'Alan Turing. Turing, c'était aux éditions Les Belles Lettres. Alors, vous avez vu tous les deux ce film, Imitation Game, et comme nous sommes très radins ici à la Tête au Carré, on a voulu savoir si ça valait la peine de se déplacer dans une salle de ciné pour le voir. Laurence Perron, votre avis ?
Oui, je pense que ça vaut le coup de se déplacer. Après, le cinéma n'en sort pas véritablement gagnant. Enfin, on a vu, il y a des films beaucoup plus intéressants dans les salles aujourd'hui. Après, cette histoire est passionnante et c'est aussi un film qui est fait pour marcher, c'est-à-dire parler aux gens, à la fois en leur parlant d'une grande histoire méconnue. C'est-à-dire qu'Alan Turing, pour le grand public, c'est personne. Personne ne savait qu'il y avait un pionnier de l'intelligence artificielle et des ordinateurs qui s'appelait Alan Turing. Donc on est content de le découvrir. On est content d'apprendre aussi, parce que c'est dit dans le film, que ce type aurait sauvé quand même pendant la Seconde Guerre mondiale 14 millions de vies, qu'il aurait permis d'empêcher l'invasion de l'Angleterre grâce au décryptage des codes de l'armée nazie. Donc on est assez content de savoir ça. Et puis il y a aussi une une force symbolique dans le film. C'était un grand scientifique, il était homosexuel, il l'a payé de sa vie. Et à un moment donné, cet homme, ce scientifique, ce grand homme méconnu, a enfin droit aux honneurs d'Hollywood avec un film qui marche très bien, hein, vu qu'il est nommé, il est nommé 8 fois à Hollywood, dont le rôle du meilleur acteur.
Benedict Cumberbatch, c'est ça ? On le prononce comme ça ?
Cumberbatch, oui, voilà. Cumberbatch.
Jean Lassaigue, faut-il aller voir ce film au cinéma ?
Pour celui qui ne connaît pas le personnage, je pense que oui, on peut aller le voir.
Oui. Mais vous, vous en pensez quoi vraiment ?
Disons qu'il y a un certain nombre de choses qui me paraissent très romancées, pas tout à fait exactes. Donc, quand on connaît un peu mieux la vie de Turing, c'est vrai qu'on est un peu déçu par le film.
Et c'est votre cas ?
Oui, c'est un peu mon cas.
Ouais. Ouais. Quelle est votre déception principale autour de ce film ?
Je pense qu'on a fait tourner toute l'intrigue autour du décryptage des codes allemands, des sous-marins allemands qui faisaient le blocus de l'Angleterre. Et je pense que c'est un épisode parmi d'autres, de la vie de Turing, mais sûrement pas le principal.
Oui. En même temps, c'est passionnant parce que moi, je ne savais pas que 14 millions de vies ont été épargnées parce qu'un type a réussi à perder, à percer...
Un grand
scientifique.
C'est le génie Alan Turing, enfin,
le
quand
génial.
Même.
Alors d'ailleurs, il y a quelque chose avec ça. On dit aussi que Apple, si jamais la pomme est le symbole aujourd'hui d'Apple...
Oui, il y a beaucoup de
mythes, est-ce que c'est vrai ou pas ? Non, mais la pomme croquée, ce serait la pomme que le scientifique au cyanure a croqué pour se suicider lorsqu'on a découvert son homosexualité et qu'on a voulu le castrer chimiquement.
Il paraît que c'est une légende totale, ça.
Oui, je crois que c'est une légende. Maintenant, les mythes ont la vie dure.
Mais en même temps, c'est formidable parce que la pomme d'Apple, la première, elle est effectivement en Rainbow Warrior, en arc-en-ciel, et elle est effectivement croquée. Pourquoi choisir une pomme croquée pour parler d'ordinateur quand on est Steve Jobs ?
Je ne peux pas vous répondre.
Jean Lassaigue, ça vous désole justement qu'on découvre aujourd'hui, au fond, Alan Turing comme le dit Laurence ?
Non, je suis content. Moi, je suis content qu'il y ait une espèce de réhabilitation de Turing. Je pense que la sacralisation du personnage, en revanche, est un peu désolante. Ouais. Je pense qu'il ne l'aurait pas très bien pris. Ouais. Voilà.
Et cette histoire d'amour au sein du film, parce que c'est l'intrigue aussi qui permet d'introduire Keira Knightley quand même dans ce film.
Voilà, bon, alors c'est
la mathématicienne, oui.
Voilà, c'est vrai que Turing, à une époque de sa vie, a été fiancé, c'est tout à fait exact. Maintenant, en faire un ressort principal du film me paraît abusif, puisque Turing est homosexuel, on le voit d'ailleurs dans le film, c'est très bien montré. Et donc, il y a eu un épisode comme ça dans sa vie, mais qui n'a pas eu l'importance qu'on essaie de lui accorder dans le film.
Oui. Axel, il y a une réhabilitation très tardive d'ailleurs d'Alan Turing en Angleterre. Je crois que c'est la reine qui a fait ce boulot.
Ça se passe en 2009 et en 2013. C'est Gordon Brown et ensuite la reine Elisabeth qui offre son pardon royal à ce qui a été perpétré sur la personne d'Alan Turing au nom de son homosexualité.
Alors le Times a quand même classé Turing parmi les 100 personnalités les plus importantes du XXe siècle, mais le grand public ne le connaît pas.
Ouais. Ça vient du fait qu'il faisait partie des services secrets.
Ouais. Plus que de son homosexualité.
Je pense que l'homosexualité, ça n'a pas aidé. Mais disons que c'est quand même quelqu'un qui faisait partie des services secrets, qui a travaillé ensuite pendant la guerre froide et qui était surveillé par la police à cause de ça. Donc ça a évidemment beaucoup joué, puisque une partie des travaux de Turing ont été occultés et placés sous secret défense pendant des années, jusqu'à la fin des années 90. Donc tout ça n'a pas joué en sa faveur, disons.
Tel point d'ailleurs que dans le film, on évoque à un moment donné la possibilité qu'il ait pu être assassiné par les services secrets britanniques et qu'il ne se soit pas suicidé.
Oui.
Ça fait partie de la romance aussi, selon vous.
Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses romancées dans ce film.
Laurence, quel est le niveau de science alors dans ce film, justement ? Quand on connaît peu la science, est-ce que c'est accessible ?
Mais totalement. C'est à mon avis...
On n'en doutait pas d'ailleurs de la part d'Hollywood.
C'est l'une des réserves, à mon avis, majeures sur ce film-là. C'est que c'est un film qui est d'abord fait pour avoir donc une forte charge symbolique. C'est-à-dire qu'on est quand même... On va célébrer, commémorer les 70 ans de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, le film arrive au beau moment. Il y a eu un best-seller. Il est question aussi de l'homosexualité et de la manière dont on peut réhabiliter un homme. Donc voilà. Après, la science, je pense qu'elle est là en ornemental, je dirais. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'explique rien. On explique juste... Enfin voilà, l'invention de Turing, c'est une espèce de grand jeu Castor Junior géant, une espèce de grand jeu d'échecs où on plug comme ça des petites fiches.
Je dirais pas qu'elle est absente du film. Parce que je crois qu'il y a une interprétation majeure dans ce film que Turing est lié à l'invention et la constitution de l'informatique. Bon, voilà. Ça a joué un rôle capital dans sa vie, c'est certain. mais il a fait tout autre chose aussi dans sa vie, en particulier de la biologie théorique.
Absolument.
Ouais. Et ça, ça passe complètement à la trappe dans le film. Donc je pense qu'il y a un parti pris dans le film qui montre Turing comme étant le père de l'informatique, qu'il est, mais qui n'est pas seulement. Voilà. Donc il y a bien quelque chose comme une interprétation de son rôle dans la science.
Et alors, je me suis fait d'ailleurs la réflexion, en regardant le nombre de scientifiques qui avaient été honorés au cinéma. En fait, c'est très peu. Même Marie Curie, il y a un film, il y a des documentaires, mais des films de cinéma et des grands films hollywoodiens. Donc je pense que il est compliqué pour le cinéma.
On n'a pas encore le grand film sur Einstein non plus, par exemple. Hein.
Exactement. Ouais. Il est compliqué pour le cinéma de s'emparer de travaux scientifiques et de le faire avec honnêteté et avec courage, sans doute.
Oui. Mais de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il a une vie tellement extraordinaire que c'est un parfait personnage de roman ou de film.
Et ce qui serait étonnant, c'est que coup sur coup, en une semaine, un film sur Stephen Hawking, la semaine dernière...
La merveilleuse histoire du temps,
voilà, et le film donc, sur Alan Turing cette semaine, avec toujours ces deux images de génie. Alors, on en a beaucoup parlé aussi la semaine dernière, parce que Stephen Hawking, c'est en apparence le génie solitaire, alors qu'il a été très entouré par ses étudiants. Est-ce que se joue la même chose, justement, avec Alan Turing, Laurence, ou pas ?
Alan Turing, il y a véritablement une équipe. Là, pour le coup, c'est montré dans le film, vous êtes d'accord avec moi. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout seul. Il y a vraiment l'équipe qui a été constituée par le MI6, les services secrets britanniques, pour l'aider. Lui, c'est le génie, mais il est aidé par une équipe.
Oui, je crois qu'il aimait travailler tout seul, mais je crois qu'effectivement, il était entouré d'une équipe. C'est vrai.
Turing, donc, c'est ce livre que vous avez publié, entre autres, hein, aux éditions des Belles Lettres, Jean Lassalle, mais il y en a d'autres. Hein,
D'autres, et puis il faut aller voir le site, le blog qui s'appelle Binaire sur lemonde.fr.
Vous avez publié justement.
Oui, j'ai publié, mais il y a
un long
tas de gens
là,
qui
sur
écrivent dans ce blog et qui me paraît intéressant de lire.
Axel, on va y aller quand même, ça donne envie. Hein.
Ah, moi je pense que je vais y aller, mais je vais aussi aller voir le film sur Stephen Hawking.
Et alors, vous en avez pensé quoi?
Je trouve que c'est toujours la même histoire, c'est très romancé. Il n'y a pas beaucoup de science, mais c'est une histoire qui mérite d'être racontée et toujours intéressante pour le grand public.
Bon, un petit plus apparemment pour Turing quand même, dans les critiques, très largement, hein, Laurence.
Oui, parce qu'effectivement l'interprétation est bonne, parce que le film se regarde comme un grand biopic hollywoodien, pas du tout indigne.
Bon, et on verra pour les Oscars, avec 8 statuettes déjà en jeu en ce moment. Merci beaucoup à tous les deux, merci Jean Lassaigue. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, ils ont ralenti la vitesse dans le vide. Des chercheurs écossais ont réussi le tour de force de faire baisser la vitesse d'un faisceau laser dans le vide de quelques fractions de seconde. Leur secret, d'avoir légèrement dévié les ondes lumineuses avec des lentilles qui modifient la vitesse propre de chaque photon. Une jolie expérience qui met un doigt sur des aspects encore méconnus de l'optique, explique Claude Favre dans Le Monde. Il explique que le phénomène, bien qu'intéressant, ne remet pas en cause une des grandes constantes de l'univers, la vitesse maximale de la lumière dans le vide, qui reste inchangé et qui est, petit rappel, de 300 000 km par seconde. La vie privée de l'encorné géant dévoilée, le quotidien du Monde, de ce calamar de Humboldt qui mesure entre 1m50 et 1m80 a été observé grâce à une caméra fixée sur son dos par des chercheurs de Stanford. On le voit notamment se battre avec ses congénères à coups de tentacules et clignoter pour communiquer avec eux. Vous pouvez même retrouver la vidéo sur la page Facebook de la Tête au Carré. Et puis pour finir, 23 étudiants en fac de médecine de Caen qui se dénudent dans un calendrier pour soutenir la lutte contre le cancer. Chaque mois du calendrier met en avant un organe touché par le cancer. Les photos sont très travaillées. Certaines mises en scène rappellent des œuvres célèbres comme la scène de Léonard de Vinci. Le calendrier coûte 5 euros. Il est en vente depuis lundi sur le site de la Corpo Médecine de Caen, dont vous trouverez le lien sur notre page Facebook. L'argent récolté sera donc reversé au comité départemental de la Ligue contre le cancer. Le lit et la chambre, dans un instant, dossier sociologique et historique dans la Tête au Carré.
So I called reception, but to no avail. That's why I'm telling you this sorry tale. It went bang, I said shut up. It went bang, I said wrap up. Well, I'm aware that the guy must do his work, but the part of a man drove me berserk. He said captain, I said what? He said captain, I said what? West, but
Adam's undressed. Well, hello, Adam, where you been? I said, stand aside, cause I'm a feeling mean. I had a gun full of you and I'm a feeling bad. But you're an ugly old pirate and ain't I glad? He said, Captain, I said, what? He said, Captain, I said, what? He said, Captain, I said, what? He said, Captain, I said, what do you want?
Sensible à l'instant sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Ah, quel bonheur le soir, après une grosse journée de travail, de se glisser sous la couette. Le calme, enfin, la volupté, la douce chaleur qui envahit le corps détendu, un bien-être diffus, de beaux rêves qui caracolent, mêlant hier et demain dans des scénarios merveilleux. Hélas, dans ce même lit, il y a l'autre, le partenaire conjugal, chaque soir à la même place, depuis quelques semaines ou de très nombreuses années. Cet autre, on l'aime, on l'adore certes, on serait prêt à se sacrifier, à sacrifier ce qu'on a de plus cher pour lui. Mais il faut le dire franchement, au moment de se glisser sous la couette, surgit comme un problème. Car l'être aimé peut soudain se transformer en ennemi redoutable quand il ronfle, qu'il a les pieds froids, qu'il se couche trop tard, qu'il a chaud alors que l'on grelotte, qu'il provoque des courants d'air quand il se tourne et il n'arrête pas de le faire, qu'il laisse ses vêtements en tas informes, etc. La liste des petites récriminations agaçantes serait interminable. Pourtant, on n'ose guère le lui dire. On sent bien que ce serait une déclaration de guerre. On est donc condamné à de minuscules tactiques sournoises et à des guérillas discrètes pour aménager en secret son petit espace de confort personnel.
Voilà, merci Jean-Claude Kaufmann donc pour la lecture des premières lignes de votre livre, un lit pour deux, La tendre guerre, qui vient de paraître chez Jean-Claude Lattès. Vous êtes sociologue du couple et on a le plaisir d'accueillir à vos côtés Michel Perrault. Vous êtes historienne, auteur d'un ouvrage Histoire de chambre qui est sorti au Seuil, dans une collection Beaux Livres, là pour le coup, hein, parce qu'il y a une très belle iconographie, et vous proposez donc une généalogie de la chambre dans ce nouvel ouvrage. Alors justement, Michel Perrault, ce qui est très amusant, c'est la couverture de votre livre. Il faut dire quel est le peintre que vous avez choisi pour cette couverture.
Magritte. Voilà. Un tableau qui est à Bruxelles, au musée Magritte.
Voilà. Il n'y a rien qui vous étonne, vous, dans cette peinture ?
Tout m'étonne. Et ouais. Je n'ai jamais, bon, pour le public, un homme masqué, apparemment mort, mais on n'en sait rien. Dans le fond, dans un lit, une femme qui lui apporte probablement des médicaments et oui. des lumières qui tombent sur lui. Et au fond, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire.
Oui. C'est le sosie de Jean-Claude Kaufmann, vous n'avez pas remarqué? Il est chaud avec une grosse moustache, mais c'est exactement vous, Jean-Claude Kaufmann.
Et je ne suis pas mourant.
Non, vous êtes en bien meilleure santé, voilà. Mais vous êtes déjà en couverture.
Donc c'était déjà en couverture, voilà.
C'était une belle rencontre que de vous inviter aujourd'hui. Comment est-ce que vous êtes parvenu à enquêter sur 200 personnes, Jean-Claude? Jean-Claude Kaufmann, hein, dans cette intimité du lit?
Alors, sur mes méthodes d'enquête, je suis en train de changer en ce moment. Autrefois, je frappais aux portes avec mon petit magnétophone.
C'était... C'est vrai?
Ah oui, je frappais aux portes. J'avais des problèmes souvent parce que dans le premier contact, j'étais pas très bon, quoi. Hein. Comme oui. vendeur d'aspirateur, j'aurais non. pas réussi. Il y avait beaucoup de portes qui se refermaient. Mais les portes qui s'ouvraient, c'était extraordinaire parce que les gens avaient, quand ils comprenaient que j'étais venu pour les écouter en profondeur, il y avait une envie de parler qui était extraordinaire. Donc c'est une expérience très riche. Mais
pour parler du lit, c'est plus compliqué.
C'est plus compliqué et très dévoreuse de temps. Et j'utilise de plus en plus Internet. Alors on va dire, bah oui, mais Internet, c'est lointain, c'est virtuel, les gens peuvent mentir. Alors mentir, beaucoup moins qu'on ne le croit. Quand il y a une relation de confiance qui s'établit, il y a une capacité à se livrer, à dire, pas seulement pour parler de soi, mais pour essayer de se comprendre. Et il y a une sincérité et même une capacité d'auto-analyse. Les gens veulent dire vrai, voilà comment ça s'est passé chez moi, comment ça se passe, les questions que je me pose. Donc j'établis une relation de confiance avec les personnes et il y a un échange par Internet qui se développe, ce qui me permet de recueillir beaucoup de témoignages.
Alors, vous avez été très surpris par le nombre de réponses que vous avez reçues sur cette question.
Ah oui, alors immédiatement, ça a été important. De 200 témoignages pour une enquête de type qualitatif où on plonge dans les histoires, c'est beaucoup, hein, c'est énormément. J'ai dû demander d'arrêter. Et notamment, il y avait une sous-catégorie, c'était les personnes faisant chambre à part qui avaient dû affronter des obstacles très nombreux, notamment se sentir tant stigmatisés par les autres, mal compris, et ils avaient envie d'expliquer leur bonheur en rajoutant un petit peu autrefois. Alors là, il faut savoir...
C'est un tabou, hein, d'ailleurs, c'est ce que vous expliquez.
C'est un tabou très fort. Donc là, il faut savoir décrypter, les modérer un petit peu. Et il y a un moment, j'ai dû arrêter l'enquête parce que j'avais trop de matériaux.
Michel Perrot, qu'est-ce que ça dit justement de l'importance du lit et de la chambre quand même, le fait qu'il y ait autant de gens à vouloir en parler?
Beaucoup de choses. À la fois, c'est le lieu de l'intime, du secret. Et aujourd'hui, en effet, on sonde l'intime, le secret, les gens ont envie d'en parler. Mais je voulais vous poser une question, Jean-Claude Kaufmann. Plus d'hommes et femmes, quelle est la... est-ce qu'il y a parité? On a l'impression, à lire le livre, qu'il y a plus de femmes que d'hommes.
C'est vrai.
Ouais, alors, dans tous ces sujets intimes, j'ai toujours eu plus de femmes que d'hommes. Dans mon enquête sur les petits agacements dans le couple, j'avais pratiquement aucun homme. J'ai dû lancer des appels à témoignages en direction des hommes pour qu'il y en ait quelques-uns. Et c'était les femmes qui étaient beaucoup plus agacées parce que plus engagées, je dirais, dans la vie conjugale, dans la vie familiale, et donc très agacées par le fait que les hommes n'étaient pas à la hauteur des attentes. Et certains hommes, il y en a même un qui m'avait dit « Si, il y a plein de choses qui m'agacent chez elle, mais c'est pas ça le plus grave. Le plus important, c'est qu'elle me fatigue, justement. » C'est-à-dire avec toutes ses demandes. Là, sur le lit, il y a quand même un certain nombre d'hommes, finalement, minoritaires, mais assez nombreux, qui ont témoigné, notamment pour faire part, sur la question de la chambre à part, de leur incompréhension. Parce que la grosse surprise de mon enquête, quand même, c'est que les femmes, qui sont toujours plus en première ligne, plus engagées dans toute la relation conjugale, le suivi des enfants, tout ce qui est amour, couple, famille, plus entière, plus en première ligne, là, ce sont elles qui, massivement, sont plus en demande de la chambre séparée. Donc là, il y avait quelque chose de surprenant, de tout à fait inhabituel et très intéressant.
Alors, chambre séparée, voire maison séparée, comme dans cet extrait de la crise.
Qu'est-ce que tu fais là?
J'ai amené toutes mes affaires. J'en ai marre de ne pas dormir avec toi tous les jours, je m'installe.
Mais enfin, Didier, il est 3h du matin.
Mais c'est pas grave, c'est la vie de te recoucher, moi je rentre tout ça, je te rejoins, je déballerai demain.
Mais qu'est-ce qui te prend?
J'ai été égoïste, j'aimais trop ma liberté, et je t'ai jamais proposé le mariage ni de vivre avec toi, mais ce soir j'ai réfléchi. Je me suis rendu compte que je t'aime vraiment et je peux pas me passer toi, je fais le grand saut.
Comment ça le grand saut? Quel grand saut? Mais ça va pas la tête?
Quoi ça va pas la tête?
Mais j'ai pas du tout envie que tu viennes habiter chez moi, moi.
Comment ça, t'as pas envie?
Écoute, Didier, je ne veux pas vivre avec quelqu'un, tu comprends? Ni toi, ni personne, je ne veux pas. Je veux vivre seul, tu comprends? Je veux pouvoir péter dans mes draps tranquilles, rentrer à n'importe quelle heure, bouffer sur un coin de table, inviter des copains, faire le ménage seulement une fois par an si ça me chante. Je veux dépenser mon fric à ma façon, je veux...
Mais tout ça, tu pourras très bien le faire, je vois pas où est le problème.
Le problème, c'est que je ne veux pas d'un mec étiaffé sur mon canapé qui baille en disant qu'est-ce qu'il a bouffé ce soir. Je ne veux pas qu'on me dise, tiens, toi qui repasses si bien les chemises. Je ne veux pas acheter la nouvelle BMW qui est fabuleuse et on paiera les traites ensemble. Je ne veux pas que ta mère me téléphone pour savoir si je t'ai bien donné tes cachets contre la grippe. Je ne veux pas tes chaussettes sales dans mon panier à linge. Je ne veux pas nettoyer la cuisine pendant 3 heures le jour où t'auras décidé de faire une paella pour tes collègues du bureau. Je ne veux pas te demander si t'es d'accord de regarder le film au lieu du sport. Je ne veux pas, je ne veux pas. Ta vie, c'est ta vie. Ma vie, c'est ma vie.
Voilà la crise donc de Colin Serrault avec Michel Perrault. Une réaction sur cet extrait-là. On est au-delà de la chambre, évidemment. On est sorti de la maison. Elle sort, le type de la maison.
Oui, oui. Mais la maison et la chambre ont été souvent un devoir pour les femmes. Donc, à l'époque où elles peuvent s'exprimer, elles demandent parfois d'être libérées. Hein. Oui. Au point, vous liez, pour revenir au lit de Jean-Claude Kaufmann, si j'ose dire, le devoir conjugal. Hein. Autrefois, c'était quand même... le mariage, c'était le devoir conjugal. C'est pas drôle comme mot, quand même.
Oui, c'est, vrai, c'est un peu lourd
donc,
de sens.
C'est un peu lourd de sens. Donc, il en reste quelquefois encore quelque chose. Et les femmes, elles ne veulent plus du devoir conjugal. Elles veulent le désir conjugal.
C'est pour ça que c'est tabou de vouloir faire chambre à part, parce qu'on n'est plus du tout dans cette image du devoir conjugal. Au contraire, on veut affirmer autre chose.
Alors, par rapport à l'extrait qu'on vient d'entendre, ce qui est étonnant, c'est que c'est presque plus tabou de faire chambre à part que de faire appartement à part.
Oui.
Effectivement, les couples non cohabitants, ça existe. Hein, c'est pas majoritaire, mais c'est une tendance légèrement en développement. Pourquoi ? Parce que on est d'abord soi-même aujourd'hui. On veut s'exprimer, se sentir sans contrainte, avec le désir en même temps d'une relation. Mais il y a une difficulté de partage. C'est très bien exprimé dans l'extrait du quotidien. Mmh. On veut pas se sentir contraint dans ses rythmes, dans ses manières de toucher les objets, dans tous ses repères très personnels. Donc certains vont exprimer ça. Alors certains, faut avoir les moyens. Faut pas qu'il y ait des enfants en bas âge, c'est assez compliqué cette situation des logements séparés. Mais ça existe, et bizarrement, le tabou est moins fort que pour la chambre séparée. La chambre séparée, dans la mentalité collective, c'est très net. S'il n'y a pas lit commun du début de la nuit à la fin, c'est qu'il y a un problème de couple.
Hein.
Ça, c'est tout à fait évident. Alors que, on voit que la tendance est en train de se développer aujourd'hui dans des situations où il n'y a pas de problème de couple, ou alors il va y avoir un problème de couple s'il n'arrive pas à résoudre cette question-là.
Michel Perrault, dans Histoire de chambre, vous dites aussi que pour les femmes, la chambre à soi, c'est un lieu d'émancipation aussi.
Ah, bien sûr. Tout le monde pense au titre de Virginia Woolf, Une chambre à soi, où elle montre que pour écrire, une femme doit avoir un peu d'argent, d'abord, comme tout le monde, hein, et puis un espace. Voilà, l'espace à soi, c'est très important. Et il en reste quelque chose dans la revendication féminine de la chambre à soi.
L'espace de Colette, par exemple, extrait d'un documentaire réalisé en 1950.
Bonjour Pauline.
Bonjour madame.
Ah, quel temps fait-il Pauline ?
Il fait très beau madame.
Et combien de degrés ?
9 ce matin.
Oui, pas beaucoup pour moi.
Bonjour.
Bonjour.
Bien dormi ?
Comme d'habitude.
Tu as entendu ce matin de bonne heure citer les Martinets ?
Les Martinets, les enfants.
Mais le jardin est déjà plein d'enfants.
Oui.
Je te sers ?
C'est les Martinets, les enfants, ce qui fait beau. Quelle chance.
Voilà, et Michel Perrault, il y a une photo justement, on voit Colette dans votre livre, à 81 ans, dans la chambre du premier étage du Palais Royal, justement, dans son appartement.
Elle appelait son lit radeau. Le lit radeau. Elle construisait,
c'était un bureau,
Un bureau. Oui. Mais elle écrivait, elle avait mal aux jambes aussi, elle écrivait dans son lit. Mais beaucoup d'écrivains ont aimé écrire dans leur lit.
C'est vrai, il y a d'autres
photos.
Le lit
sert à beaucoup de choses.
Oui. Il y a d'autres documents d'ailleurs. On voit également le poète, rappelez-moi son nom, à Carcassonne, qui est dans ce livre, Joël Bousquet.
Il faut voir
cette photo de sa chambre.
Ah, oui.
Là aussi, c'est un bureau. Hein. C'est
un
vrai bazar avec beaucoup de choses, des journaux, des livres.
Joël Bousquet avait été blessé gravement pendant la guerre 14-18, tout à fait à la fin de la guerre.
Et
il a vécu toute sa vie, puisqu'il est mort en 51, tout de même bien après, dans sa chambre et dans son lit. Mais il a su, c'est un écrivain aussi, et un artiste, il a su transformer sa chambre en atelier, en salon de conversation, en lieu de création, avec notamment tous les peintres surréalistes qui lui apportaient des tableaux, et la chambre était tapissée de leurs tableaux.
Comme Marie-Antoinette d'ailleurs, hein, puisqu'on peut faire aussi une analogie avec la chambre de Marie-Antoinette, qui était un lieu aussi de rencontre, hein, où on venait travailler, écouter de la musique et discuter.
Dans la tradition d'ancien régime, la chambre des femmes est souvent un salon.
Se retrouve dans un instant. Les messages des auditeurs arrivent sur franceinter.fr.
Bonne nuit, Julien.
Bonne nuit.
Je te salue, Seigneur, du fond de l'inutile, à travers la tendresse de mes cauchemars d'enfant, le calme des espoirs, de mon bonheur tranquille, et la sérénité de mon joyeux néant. Et je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première beauté vierge tombée des cieux. Oui, je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première beauté vierge tombée des cieux. Oui, je m'en vais ce soir. Pendant que mes ennemis amnistient leur conscience, que mes anciens amis font tomber leur sentence, les citoyens frigides tremblent dans leur cervelle quand les clochards lucides retournent à leur poubelle. Et je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première beauté vierge tombée des cieux. Oui, je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première beauté vierge tombée des cieux. Oui, je m'en vais ce soir. Salut Seigneur, du fond de tes abîmes, de tes clochers trompeurs, de tes églises vides, je suis ton cœur blessé, le fruit de ta déprime, je suis ton assassin, je suis ton déicide, et je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première beauté vierge tombée des cieux. Oui, je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première beauté vierge tombée des cieux. Oui, je m'en vais ce soir. Je m'en vais ce soir. Oui, je m'en vais ce soir.
Hubert Félix Stéphane.
Mathieu Vidard.
Ce qu'il lui faut, c'est un peu de chaleur humaine.
Jusqu'à 15h.
Je m'en occupe.
Sur France Inter.
De la chaleur humaine dans le lit et dans la chambre cet après-midi avec l'historienne Michel Perrault et le sociologue Jean-Claude Kaufmann. Vos messages franceinter.fr et vos messages courts avec le mot-clé l'attaque. Mickey nous dit ceci sur Twitter, le lit est l'endroit le plus dangereux car beaucoup de personnes y meurent. Certes, Michel Perrault.
On meurt dans un lit,
mais pas
nécessairement chez soi.
Plus chez
soi. À l'heure
soi.
Actuelle, ouais. À l'hôpital. Mmh. Et la différence est grande du point de vue de la chambre justement.
Ouais.
Mais mourir dans son lit a été longtemps une ambition, notamment des gens pauvres, qui disaient « si je pouvais mourir au moins dans mon lit hein, », plutôt que dans la rue ou dans un lit de fortune. Donc c'est...
On essaie et on mourait dans son lit, beaucoup avant. Oui. Et maintenant, évidemment, c'est terminé. Tout se fait à la clinique et à
absolument,
l'hôpital. Hein, Jean-Claude
absolument.
Kaufmann.
Oui, et puis on meurt assez souvent dans son lit parce qu'on passe beaucoup de temps dans son lit. Quand même.
C'est la moitié de la vie, quasiment. Hein.
Mais oui, parce que pour le sommeil, c'est un tiers ou un bon tiers, mais il n'y a pas que le sommeil. Et de plus en plus, aujourd'hui, dans la journée, surtout chez les jeunes et chez les célibataires, surtout les femmes célibataires, il va y avoir de multiples multiples activités qui sont faites dans le lit. On va bouquiner pour la détente, pour le travail, téléphoner,
Internet,
manger.
Internet bien sûr. Il y a un sondage qui a été fait pour IFOP.
Oui, tout à fait. Grignoter aussi, manger. Oui. Les femmes célibataires, par exemple, ont une espèce de phobie de la table haute qui symbolise la famille. Donc, elles vont rechercher du plus bas, du plus mou, de l'enveloppant. Et finalement, le lit peut se trouver là. Hein. Oui. Et c'est très intéressant, le soir, la soirée d'une femme célibataire, ça commence dans le lit et c'est un vrai plaisir d'avoir tout cet espace, ce lit qui est très habité par tout un tas de choses, des livres, des écrans. Et puis, la fin de la nuit, par contre, ça se retourne parce que le lit devient froid. Il y a comme le manque d'une présence à ce moment-là.
Il y a l'homme bouillotte que vous évoquez.
Ah oui, mais il y a l'homme bouillotte.
Vous avez des témoignages. Il y a des couples qui vraiment apprécient aussi le fait de dormir à deux pour cette raison-là.
La chaleur, bien sûr. Mais pour un homme ou pour une femme célibataire, le repas seul est un problème. Être à une table tout seul, alors que le repas c'est convivial, c'est un peu triste. Donc, on mange dans son lit, effectivement, dans ces cas-là. C'est vrai, on grignote.
Goya, sur franceinter.fr, nous écrit « Si les femmes sont la majorité à vouloir faire lit à part, c'est souvent parce que les maris ronflent. Je suis confrontée à ce véritable problème, ainsi que beaucoup de mes amis. J'adore mon mari, mais ses ronflements me réveillent plusieurs fois par nuit. Nous nous séparons souvent vers 2h du matin, et quand il est en voyage, je dors comme un loir. » Ça ressort dans les témoignages.
Oui, bien sûr, ça c'est un des facteurs principaux, le bruit, le ronflement. Ceci dit, les femmes ronflent aussi.
Il y a
des chiffres, la science a parlé, il y a des chiffres qui existent.
Et les oreilles ont entendu aussi.
À partir d'un certain niveau sonore, un nombre de décibels que je n'ai plus en tête.
Vrai.
Donc il y a 40% de femmes et 60% des hommes. Et en plus, le ronflement féminin est encore plus intolérable. Parce qu'on attend des femmes qu'elles se contrôlent totalement alors qu'on accepte que l'homme...
C'est la science qui le dit, Jean-Claude Kaufmann, évidemment.
Mais ça, c'est les stéréotypes qui se sont installés du côté masculin et du côté féminin. Oui. On tolère que l'homme ait plus de petits dérapages. Oui. Mais effectivement, quand il y a un ronflement qui est fort et que la personne commence à avoir un sommeil qui se dégrade, là, ce n'est pas une question de couple, de rapport conjugal. C'est une question de santé. C'est une question de sommeil. Or, il est pratiquement impossible d'en parler pour voir s'il va y avoir des solutions en dormant, par exemple, chacun de son côté.
C'est comme si c'était une injure à l'autre de lui dire « tu ronfles ». Il y a quelque chose d'un petit peu tabou là. Et du coup, on préfère presque se séparer, aller dormir ailleurs. Dans le livre de Jean-Claude Kaufmann, il y a tout un duo, on peut dire, entre le lit et le canapé.
Oui, c'est vrai.
C'est très...
Alors là, c'est étonnant, le canapé.
Quand est-ce qu'on va sur le canapé ?
Dans les années 50, le canapé était un meuble qui permettait de développer un rituel conjugal. On regardait la télévision, le couple regardait la télévision dans le canapé. Il ne faisait pas que regarder, il commentait, les corps étaient proches l'un de l'autre, etc. Donc c'était un moment conjugal. Aujourd'hui, le canapé va être occupé par l'un, qui va regarder son propre programme, ou écouter la radio, ou lire un livre, pendant que l'autre va avoir son moment solo dans le lit. Justement. Et ensuite, donc le canapé est un moyen, au contraire, d'expression de l'individu, alors qu'il y a 50 ans, il était un moyen de construction du couple.
Et alors, vous montrez vraiment les rituels autour du lit, pour le coup. Le coucher, par exemple, un couple, parce que c'est vraiment autour du lit conjugal, cette enquête. Le couple qui se couche, il y a tout un tas de rituels qui sont répétés chaque soir.
Alors, il y a la nécessité de construire des rituels. C'est absolument nécessaire, parce qu'il y a une incertitude permanente entre... le couple est fondé sur cette contradiction entre désir de proximité et désir de distance.
Oui.
Et ça n'arrête pas de changer dans la tête, et le désir de l'un n'est pas le désir de l'autre.
Oui.
Donc, on ne peut pas vivre avec une incertitude permanente. Donc, il faut la dépasser par la construction de rituels. Ce que je viens de dire, par exemple, très souvent, il y en a un qui a un moment solo dans le lit, avec un très grand plaisir d'être seul. Il y a l'image qui est donnée, je fais l'étoile de mer. Donc, je sens par cette position que je n'ai aucune contrainte, j'ai tout l'espace. Mais après ce plaisir du temps en solo, il y a le désir que l'autre vienne se coucher. Mais l'autre en question, il n'a peut-être pas trop envie de venir se coucher très vite. Donc, il faut ritualiser, par exemple, se fixer une heure. Il y a très souvent une heure de couvre-feu pour avoir le moment couple avant la troisième séquence, qui est l'endormissement, où souvent on va reconstruire sa bulle personnelle.
Ouais. Alors on va écouter Sophie Kahl, l'artiste Sophie Kahl, justement, qui elle a fait une opération intéressante. Elle a prêté son lit et elle a observé ce qui se passait dans son lit. On l'écoute.
«
J'ai demandé à des gens de m'accorder quelques heures de leur sommeil, de venir dormir dans mon lit, de s'y laisser photographier, regarder, de répondre à quelques questions. L'occupation du lit a commencé le dimanche 1er avril 1979 à 17h et s'est terminée le lundi 9 avril à 10h.
Cette personne que je ne connais pas, qui dort dans mon lit, dont je ne sais pas pour qui elle vote, si elle a des enfants, je vais observer ce que peut-être personne jamais n'a regardé. 8 heures de son sommeil. Un moment d'intimité extrême.
Michel Perrault, observer les gens dormir, c'est voir aussi les positions du corps, hein ?
Tout à fait, oui. Et ça a été fait au XXe siècle, scientifiquement. On voulait étudier le sommeil, les phases, différentes phases du sommeil, et on captait un petit peu les moments de l'endormissement, du rêve, etc. Mais Sophie Calle, évidemment, c'est pour l'art.
Voilà, et un corps bouge beaucoup pendant la nuit, justement. C'est ce qu'on observe quand on filme les dormeurs, justement, pour la science, Jean-Claude Kaufmann.
Bouge beaucoup, ça n'empêche pas d'avoir l'idée de la position. La position, c'est souvent la position de départ, au moment de l'endormissement, quoi. Là, chacun cherche son petit repère qui permet le relâchement absolu. Mais cette position est une position de départ, et par la suite, il peut y avoir des positions vraiment très différentes.
Oui. Vous dites des tas de choses passionnantes sur les positions. La position du fœtus, qui est très importante. Hein, les genoux repliés sur l'estomac. C'est... Et puis, pour le couple, la position en cuillère, qui est souvent au début de la nuit. Et puis après.
Très souvent avec la femme à l'intérieur. Ouais. Parce que là, il y a une opposition.
Ça, c'est l'homme bouillotte, justement.
Alors, il y a une opposition homme-femme qui est assez marquée. Il y a sans doute, je pense, un peu de biologique, quand même, malgré tout, là-dedans, sur le froid et le chaud, quoi. Très souvent, pas toujours, pas toutes les femmes et tous les hommes, il ne faut pas généraliser, mais les femmes sont en recherche de chaleur, et peut-être pas seulement de chaleur physique, il y a aussi le désir d'un certain enveloppement qui est plus marqué.
Xavier nous dit, cette nuit, je me suis fait réveiller à 5h du matin par ma compagne parce que j'avais tiré toute la couverture à moi. Alors ça, les histoires de couettes, ça, vous en avez eu énormément aussi dans les témoignages.
Les histoires d'espace, il y a toujours l'impression que le partenaire prend plus d'espace que soi, mais il y en a qui en prennent beaucoup. Les histoires de mouvement, il y en a qui bougent beaucoup et qui peuvent par exemple provoquer des courants d'air. Bon, pour celui qui a froid, c'est un problème. Histoire de couverture, de couette, la couette donne l'impression de résoudre un petit peu les problèmes.
Si on la prend
couette,
large.
oui, si elle est assez large, et puis il faut être d'accord sur la chaleur de la couette. C'est moins facile que drap et couverture pour gérer une différence.
Tout ça dans un lit qui s'agrandit aussi énormément.
Alors, ce n'est pas des négociations, c'est des ajustements très souvent, ou des petits mots, des petits gestes, celui qui ronfle, le petit coup de coude, etc., des toutes petites choses qui sont... mais on essaie de sentir quel va être le bon accord entre des contradictions, donc ce n'est pas simple du tout.
Et Jean-Claude Kaufmann, effectivement, se lit, grandit, si la France reste encore...
Alors oui, la France a une tradition de lit pas très... Il y a certains pays qui parlent même de lit français.
Pour le 140.
Pour le 140, quoi. Effectivement, d'élargir de 20 cm, ça donne une marge de jeu très importante. Et il y a cette personne dans le livre, ce témoignage, cette femme, elle demande à son mari, tiens, j'aimerais bien un lit plus large. Il dit, oui, on va prendre à 2 mètres. Il dit, non, on fera ça par étapes, 20 cm tous les 15 ans. This shit, that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin, living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh!
Stop, wait a minute.
Fill my cup, put some nigga in it.
Take a sip, stop.
sign the check. Julio, get the stretch.
Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop, skip it.
I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Trick, say my name. Hit you, hallelujah. Ooh. Girls, hit you, hallelujah. Ooh. Girls, hit you, hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk gon' give it to you.
Ooh. Cause Uptown Funk gon' give it to you.
Cause Uptown Funk gon' give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch.
Uptown Funk avec Mark Ronson à l'instant sur France Inter dans notre tête au carré. Nous sommes dans le lit et dans la chambre avec Michel Perrault, Histoire de chambre justement publiée au Seuil. Là c'est le beau livre hein, qui arrive Michel Perrault avec une très belle iconographie, peinture et photographie. Et puis Jean-Claude Kaufmann, un lit pour deux, La tendre guerre chez Jean-Claude Lattès. Quel est l'âge moyen des personnes de votre étude, demande Goya, et la durée en temps des couples que vous avez interrogés, Jean-Claude Kaufmann?
Alors il y a à peu près tous les âges, mais avec une surreprésentation très forte de personnes autour de 50 ans, voire 60 ans, parce que là, le problème est plus vibrant. C'est une période qui, aujourd'hui, devient un petit peu difficile pour beaucoup de couples, en dehors de la question du lit, parce qu'après le départ des enfants, voire encore plus après une première retraite ou une pré-retraite, il y a un renforcement du face-à-face conjugal. On ne s'y était pas préparé. Et il y a très souvent un sentiment de l'un ou de l'autre d'étouffer, de ne pas avoir son espace vital. Et ça se traduit encore plus dans le lit. Et là, l'intolérance monte très vite.
Gilles demande quel est le lien entre la chambre et l'antichambre, Michel Perrault.
L'antichambre est avant la chambre. Mais en réalité, c'était surtout l'entrée dans une maison ou dans un appartement, en fait, loin de la chambre. Ouais. C'est la pièce d'entrée, véritablement. Mmh. Et dans les maisons d'autrefois, les appartements d'autrefois, c'était une pièce entre le privé et le public.
Ouais. Hein,
le public entre dans l'antichambre, mais on n'introduit dans le privé que les familiers, en quelque sorte.
La chambre du roi, c'est Louis XIV le premier qui en écrit l'ordonnance ?
Ah non, pas du tout. Non, non. La pratique de la chambre du roi est très antérieure, mais Louis XIV ayant régné très longtemps, ayant accordé beaucoup d'importance à la chambre, ça revêt une importance particulière.
Ouais. Il y dort peu d'ailleurs dans cette chambre. Hein.
Au fond, il y a deux chambres du roi, et comme il y a deux corps du roi, il y a la chambre de parade, où pour le coucher et le lever, et puis il y a la chambre du sommeil, de l'intime, et en réalité, dans Versailles, le roi circule.
Oui.
Il va chez la reine, il va chez ses maîtresses, enfin, il a toute une géographie.
Il y a le devoir conjugal et autres, voilà, hein, justement. Exactement. Mais en fait, il dort très peu dans cette chambre
très
de parade,
peu,
parce qu'on vient le chercher avec l'épée et le pot, hein, justement, pour aller se balader ailleurs.
Tout à fait.
Michel Perrault, il y a aussi de très belles photos, il y a cet enfant qui dort dans un lit avec un chat dans cet ouvrage.
Oui.
C'est un enfant malade ?
Oui, c'est un enfant malade qui a pris ensuite beaucoup de photos de lui-même.
Ouais.
Il a fait prendre des photos de lui-même à cette époque. Et c'est important parce que l'enfant, la chambre d'enfant, c'est quelque chose de très important et de plus en plus important, je dirais même aujourd'hui.
Ouais.
La chambre du couple, au fond, a aujourd'hui moins d'importance que la chambre d'enfant.
Vous aussi, vous avez été une enfant qui a passé beaucoup de temps dans son lit pour des raisons de maladie.
Oui,
justement.
aussi.
C'est ce que vous le racontez. Hein,
oui, un petit peu. Oui,
voilà,
oui.
Après la guerre, donc vous avez
c'était
été.
C'était très important, voilà. Oui, absolument.
Et c'est vrai que ça rejoint cette très jolie photographie qu'on trouve dans votre ouvrage. Sabrine dit ceci, en Allemagne et en Suisse, il n'est pas rare d'avoir un grand lit compté de deux matelas, ce qui présente beaucoup d'avantages. En outre, ils ont également chacun une couette individuelle. Cet ajustement logistique permet de dormir ensemble sans trop pâtir des désagréments du partage d'un espace intime réduit. Ah ça, je trouve ça terrible, moi, les deux couettes, je trouve ça épouvantable.
Oui, alors moi j'ai été surpris dans l'enquête d'avoir si souvent l'exemple des deux couettes, parce qu'avant d'arriver au lit, c'est pareil, il y a toute une série de situations.
Et vous avez tout le temps les pieds qui sortent en général.
Et alors, il y en a qui expliquent, on s'enroule comme des nems, donc ça oui. évite les courants d'air. Ah bon. Alors, ceci dit, il n'y a pas que le bien-être personnel dans le lit. Il y a aussi la tendresse, les câlins, voire plus si affinité avec le partenaire. Donc, il faut défaire le nem. C'est sans doute oui. un petit peu compliqué.
Alors, c'est ça, oui.
Et là, la remarque de l'auditrice, c'est mieux. C'est mieux d'avoir deux matelas, c'est mieux pour le confort personnel. Mais dans certains couples, il y a une logique du dépassement de soi, de oui. la capacité à ne pas ressentir les gênes Mais qui oui. pourraient être ressentis et qui est à la base de Mais l'amour, oui. quand même. Donc, c'est à chaque couple de construire un petit peu
Mais
sa
quand vous allez
alchimie.
En vacances en Allemagne, vous êtes là séparés de votre conjoint et parce que vous avez justement cette limite entre les deux matelas, c'est horrible pour les vacances.
Mais Balzac, oui. qui a publié une physiologie du mariage extraordinaire pour le lit, était très contre les deux lits. Ah oui. Disait le lit et tout le mariage. Et lui était pour le lit évidemment unique, mais c'est la tradition latine.
Oui.
Alors que les deux lits, c'est la tradition protestante, Europe du Nord, Angleterre, etc.
Faire et des... chambre à part, justement. On va écouter le film Gabriel de Patrice Chéreau avec Isabelle Huppert et Pascal Grégory.
Avec le temps, je crois que nous sommes parvenus à nous connaître suffisamment pour toutes les nécessités pratiques. C'est important. Nous n'avons pas d'intimité, mais nous n'en avons pas besoin. Mon désir est apaisé. Il est devenu une habitude. Nous dormons dans la même chambre. C'est moi qui l'exige. Je n'ai pas besoin d'aventures ni de territoires séparés. Non, non. Il me faut juste deux lits contigus avec deux tables de nuit. Et que Gabriel dorme dans l'autre lit.
Voilà, c'est ça. Ils ne font pas chambre à part, effectivement. Ils font lit à part dans la même chambre, ce qui est très différent. Vous avez des exemples comme
alors
ça?
Alors, j'en ai assez peu, effectivement. J'ai fait référence à Balzac, qui vraiment se passionne contre. J'ai eu assez peu d'exemples. Les quelques chiffres que j'ai montrent que c'est relativement peu répandu, parce qu'il faut une grande chambre. Et puis, ça n'évite pas tous les inconvénients. S'il y a un ronflement, par exemple,
voilà,
ça ne va
c'est
pas...
c'est ça le problème. Ou alors, il faut aller en Allemagne.
Ça va pas changer grand-chose.
Oui. Ronfler en Allemagne.
Alors, justement, on fait beaucoup de choses dans le lit, on le disait, de la lecture, 83%. On y travaille, ça aussi, beaucoup, 30% apparemment des personnes interrogées. On y mange, 30% là aussi, je trouve ça beaucoup. Bon, on y fait l'amour ou pas dans les lits aujourd'hui?
Oui, quand même. Et puis alors, il n'y a pas un moment bien séparé. C'est le moment de l'amour, de la sexualité.
Oui.
Et puis, le moment du sommeil. Il y a tout cet entre-deux. Par exemple, ceux qui font chambre à part m'expliquent longuement comment ça leur a permis de redynamiser la sexualité, de briser une certaine routine. Au contraire, il faut se préparer, s'inviter. Pour les femmes,
on va gratter derrière la porte.
Pour les femmes, beaucoup de femmes, mieux contrôlées pour éviter les assauts intempestifs quand elles n'ont pas le désir d'avoir des relations sexuelles. Mais il y a quelque chose de perdu malgré tout. C'est tout cet entre-deux, la proximité de l'autre, le petit mot qu'on s'échange comme ça à la dérobée, le petit geste au passage, qui est à la base de couple. Cet ordinaire partagé et dans lequel on trouve une certaine complicité, une certaine tendresse.
Il y a un certain pessimisme dans le livre de Jean-Claude Kaufmann. Au fond, il montre que quand les lits se séparent, c'est peut-être
c'est
l'amour
pas bon signe,
qui, malgré tout, le couple se dissout un peu. J'ai trouvé que vous étiez peut-être un peu pessimiste. Après tout, toutes les expériences.
J'ai modéré l'enthousiasme de ceux qui défendaient un petit peu, mais ils avaient vécu tout le stigmate. Ils voulaient montrer que leur couple n'était pas mort. Et certains disaient que c'était la manière de sauver le couple. Là-dessus, ils avaient raison. Mais malgré tout, quand on est dans cette magie de l'amour qui fait qu'on arrive à être au plus près de l'autre sans ressentir d'inconvénients, c'est quand même merveilleux.
Michel Perrault, 1450, Gauvin et la fille du roi de Norvège. C'est une peinture. Alors, on y voit donc un lit au Moyen-Âge. Dans des mesures assez faibles, en tout cas.
Les lits du Moyen-Âge étaient petits. Par ailleurs, on représentait très peu les couples. On a eu beaucoup de difficultés.
C'est rare, cette image, au fond. On voit un couple, effectivement, une femme et un homme, donc, sur ce petit lit.
Épié par le roi.
C'est très mal vu de représenter des...
Oui, on ne représente pas. On ne représente pas le couple au lit. Pas du tout. Si bien qu'il y a une abondance dans la peinture médiévale des petits lits. La scène majeure étant évidemment l'Annonciation, avec le lit étroit de la Vierge Marie, le lit de la jeune fille.
Dominique Dy avec mon ami, nous avons fait directement chambre à part, directement quand nous nous sommes installés, ça fait jaser, mais c'est une excellente solution car monsieur ronfle énormément et nous avons des horaires décalés, nous nous retrouvons avec bonheur le matin et la sieste se passe à deux dans le canapé. Voilà un témoignage pour vous Jean-Claude Kaufmann si vous souhaitez poursuivre votre étude. Chambre de l'hôtel des Saints-Pères en 1938 avec la couleur verte qui est censée favoriser le sommeil, Michel Perrault, ça
oui,
aussi c'est
oui,
un document hein, qu'on voit dans votre livre. Et puis alors il y a cette publicité assez amusante, le lit vertical. Alors ça c'est marrant parce que ce sont les designers dans les années 20 qui ont inventé ça, oui, à cause de l'étroitesse des logements. Hein.
Étroitesse du logement, problème majeur. Hein.
Oui.
Pour les deux lits, les chambres séparées, il faut encore avoir de la place
oui,
pour faire
sûr,
tout ça. Alors là, le lit rentre littéralement dans
oui,
le mur.
Oui, on voit ça assez peu quand même encore aujourd'hui, hein, oui, le lit vertical. L'objet compte aussi, hein, il s'impose
oui,
au milieu de la pièce.
Il y a quand même des canapés qu'on tire, hein,
malgré effectivement, tout. Effectivement, oui, il faut voir toutes les questions de ménage et d'intendance. Hein, redescendre le lit chaque soir, le remonter chaque matin.
C'est du boulot. Voilà, tous ces rituels, ces habitudes et cette sociologie au fond du lit en France, eh bien, on peut le retrouver dans cet ouvrage Jean-Claude Kaufmann. Un lit pour deux, c'est la tendre guerre chez Jean-Claude Lattès. Et puis Michel Perrault, donc ce beau livre issu d'Histoire de chambre, c'est aux éditions du Seuil, donc avec Magritte et Jean-Claude Kaufmann, qui est en couverture de votre ouvrage et que vous découvrez en venant à la tête au carré.